Bienvenue sur le podcast Les Cousins Théologiens.
Bonjour à tous et bienvenue sur Les Cousins Théologiens, c'est Benjamin et je suis avec mon cher cousin Monsieur Maxime Georgel. Salut Maxime.
Bonjour à tous et pour une fois on est vraiment en présentiel dans la même pièce en train d'enregistrer.
Exactement, j'ai eu la joie de rendre visite à Maxime et Vanessa, le couple de l'année qui s'est marié cet été. C'est pas secret maintenant on peut le dire et donc je suis chez eux, on a mangé une bonne raclette. Et quoi de mieux après ça que d'enregistrer des podcasts pour les cousins théologiens. Et alors aujourd'hui, Maxime, on va parler d'un sujet qui nous intéresse, comme d'habitude, mais qu'on veut partager avec vous aussi, de l'apologétique, de ce que c'est, des pourquoi c'est important, des limites et du but de l'apologétique et de comment peut-être ça nous sert, nous, dans notre vie et de ce qu'on entend par là. Peut-être, Maxime, tu voudrais commencer en nous expliquant ce qu'on entend quand on parle d'apologétique de manière générale.
Oui, alors en une phrase, hein, tout simplement. Je pense que c'est défendre la foi chrétienne, sa rationalité, sa cohérence, son historicité, et répondre aux objections qui seraient présentées pour contredire cette foi. Et j'ai vu que sur mon site préféré, La Révolution, vous avez lancé un nouveau podcast qui a une orientation apologétique, questionne ta foi. Pourquoi tu as pensé que c'était important pour des jeunes en particulier, de s'intéresser à un sujet aussi peut-être technique aux yeux des gens.
Ouais, donc c'est une nouvelle série de vidéos qu'on a lancée sur YouTube, Questionne ta foi, des vidéos d'apologétique, de montrer de défense de la foi chrétienne, d'aborder les questions difficiles. Et en fait, on s'est fait la réflexion que c'était quelque chose qui manquait dans un sens dans ce qu'on proposait, parce que je vois beaucoup de jeunes qui ont grandi dans une famille chrétienne, qui ont grandi dans l'Église, et donc ils ont grandi comme ça et on leur a pas forcément expliqué pourquoi on croyait ce qu'on croyait, on leur a pas forcément expliqué les raisons de croire, on leur a pas forcément montré la pertinence de la foi chrétienne par rapport au monde qui les entoure. Et beaucoup de jeunes, on grandit, on va au lycée, on va à l'université et on est dans un milieu où on a autour de nous plein de gens qui partagent des positions différentes, très radicales des fois, radicalement différentes de ce qu'on croit. Et face à ça, on voit des gens comme Michel Onfray, comme le André Comte-Sponville ou des gens comme ça, qui présentent les chrétiens comme des gens ridicules, qui n'ont aucun cerveau, qui croient en l'existence de Dieu encore aujourd'hui, et c'est vraiment, ça n'a aucune pertinence. Et ils présentent leur athéisme qui paraît si sage, qui paraît si impressionnant. Et on peut se dire, mais face à tout ça, face à tout ce qui m'entoure, la foi chrétienne est quand même très faible. La foi chrétienne est quand même très peu impressionnante. C'est vrai que ce n'est pas très réfléchi. Et pourtant, c'est faux, parce que je crois que... Alors, on verra les limites de l'apologétique. Ce n'est pas uniquement quelque chose de rationnel ou de... Il y a un scandale derrière tout ça qu'on veut garder. Mais on a des raisons de croire à la foi chrétienne, l'existence de Dieu, l'expression de la foi chrétienne est pour moi l'expression de la foi la plus pertinente, la plus raisonnable qu'il y a dans ce monde. Le message chrétien, le message de l'évangile est le seul message qui a une place pour moi dans ce monde pour nous donner une bonne relation avec Dieu. Et donc on a besoin de montrer ça dans ce contexte dans lequel on vit, face à l'athéisme, face à l'islam, face à le bouddhisme, face à toutes les spiritualités
qu'on voit. Je pense que les jeunes, peut-être plus que toute autre tranche de la population, sont ceux qui sont confrontés quotidiennement aux nouvelles philosophies, dans le sens où les adultes grandissent dans leur génération et ont déjà entendu des objections et ont répondu en leur temps. Ouais. Les jeunes sont en première ligne, ils font face aux nouvelles formes d'objections et pense que c'est vraiment pertinent de leur parler à eux dans leur langue.
Ouais. Et sinon, je pense un des dangers de ça, c'est qu'on va jamais aborder ces questions difficiles, on va jamais oser poser ces questions difficiles, on n'aura pas un cadre dans l'Église où nous, en tant que jeunes, on est à l'aise de dire, mais en fait, mais par exemple, une des premières questions qu'on a traitées avec Question de ta foi, si Dieu existe, pourquoi l'enfer ? Si Dieu est amour, pourquoi l'enfer ? C'est une question qu'on peut se poser, qui peut être là dans notre cœur, mais qu'on n'ose pas poser. On se dit, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi si je dis ça? Et qu'est-ce que les gens vont penser? Est-ce que c'est juste... Voilà, on remet peut-être même en cause la sincérité de notre foi. Alors que non, c'est des questions difficiles qu'on peut poser, à laquelle la Bible apporte des réponses. On croit que la Bible est la parole de Dieu. Dieu s'est révélé à nous. Et dans cette parole qu'il nous a révélée, on a des réponses pour les questions qu'on se pose. Et donc, ça vaut le coup de donner un cadre dans l'Église où on peut poser ces questions. Et je crois qu'Internet est une place privilégiée aussi pour ça, où on peut facilement aborder des questions difficiles comme ça.
Je pense parfois on vante un peu le caractère aveugle de la foi. Et c'est vrai qu'en un sens, la foi, c'est... Il y a des moments dans notre vie où on a l'impression de faire un saut dans le vide. Néanmoins, la foi en tant que vérité auquel on adhère, la Bible ne nous interdit pas du tout d'essayer de comprendre et de défendre. Et ça serait grave en fait, d'empêcher les jeunes en particulier qui ont tant d'objections en tête de, d'y réfléchir.
Ouais, exactement. Et la foi, et par rapport à ce que tu dis, la foi, c'est pas comme on, souvent on définit voilà, la foi aveugle, mais c'est pas se forcer à croire des choses dont on sait très bien qu'elles sont fausses au final. Mm. Se forcer à croire des choses qui, ah, mais en fait ça tient pas la route, etc.
Mais bon, j'ai la foi, je suis
oui,
fort.
C'est ça, mais bon, j'ai la foi, je me dis, non, c'est pas ça, c'est on place notre foi dans des vérités qui sont objectives, qui sont réelles, qui sont concrètes, qu'on voit, qu'on peut étudier. Et ça veut pas dire qu'on peut tout comprendre, ça veut pas dire qu'on peut tout expliquer. Et ultimement, il y a cette foi, cette confiance qu'on place en Dieu, mais c'est pas mauvais de comprendre ces vérités. Peut-être, Maxime, je sais que tu es passionné d'histoire. Et on ne peut pas parler d'un podcast Cousin Théologien sans parler d'un peu d'histoire. Comment est-ce que les chrétiens dans l'histoire ont utilisé l'apologétique? Alors là, je suis conscient que c'est une question qui pourrait t'occuper pendant des heures. Donc, je te donne une minute.
Mais je pense que, historiquement, plus que défendre la foi chrétienne, ils l'ont utilisé pour défendre les chrétiens eux-mêmes. Mmh. En fait, l'apologétique est née dans un contexte de persécution. Et c'est ce qu'on voit un peu dans le verset fondateur. Je crois que tous les cours d'apologétique commencent en citant 1 Pierre 3,15. Alors, je ne sais pas si c'est toujours pertinent, mais en tout cas, le contexte, c'est des chrétiens qui sont maltraités. Mmh. Et Pierre dit qu'ils doivent être capables de donner une raison de défendre l'espérance qu'ils ont. Et c'est vraiment comme ça que ça s'est produit dans l'histoire. Par exemple, Tertullien, qui a écrit un des premiers livres qui s'appelle Apologétique, c'est le titre. Il a écrit
un
livre...
C'est un bon titre, ça.
Ouais, vraiment, au moins, tu comprends de quoi c'est il parle. Et bref, il écrivait à des empereurs, en tout cas des personnes chez des gouvernants civils qui persécutaient les chrétiens. Et il leur montrait la folie en fait, de les persécuter, comment ça n'avait aucun sens. Et il utilisait son talent de juriste, c'était sa formation pour le faire. Il y a une citation que j'aimerais vous donner de son apologétique où il dit « Vous ne nous traitez pas non plus d'après les formes de la procédure criminelle, car quand les autres accusés nient, vous leur appliquez la torture pour les faire avouer, aux chrétiens seuls vous l'appliquez pour les faire nier. » Donc là, par exemple, il est en train de montrer aux Romains comment leur procédure pour juger les chrétiens est incohérente, parce que normalement, ce qu'on fait, c'est qu'on torture une personne pour qu'il avoue son crime, et là, quand il avoue son soi-disant crime d'être chrétien, on le torture pour qu'il le nie. Donc il montrait qu'il y avait une incohérence. Ou je pense à un autre ouvrage qu'on ne considère pas toujours comme de l'apologétique, mais l'Institution de Calvin. Il a écrit au début une épître au roi, et il dit « Je sais bien que d'horribles rapports ont frappé vos oreilles et votre cœur afin de vous persuader du caractère odieux de notre cause. » Et donc un des buts de l'institution, ouais, c'est de démentir les calomnies qui étaient faites sur les chrétiens, de dire « Non, regardez, nous, on n'est pas des révolutionnaires, on n'est pas là pour renverser le roi, etc. » Toutes sortes de choses. Alors ça correspondait à leur siècle. Mais dans chaque siècle, les chrétiens vont recevoir des calomnies, une fausse réputation, parfois une réputation d'irrationalité, d'être contre la science, etc. Bah, à chaque fois, le travail de l'apologète, ça va être de défendre en fait la foi chrétienne, mais les chrétiens eux-mêmes, en fait, dans leur réputation, leur fausse réputation qui leur est faite. Voilà, donc suite à cela, on avait dit qu'on parlerait des limites de l'apologétique, parce que oui, on ne veut pas se leurrer, l'apologétique c'est chouette, ça défend les chrétiens, ça peut être agréable à pratiquer, ça peut être rassurant, mais c'est pas tout puissant, et ça remplace, c'est pas toute la théologie, c'est pas toute la mission du chrétien. Quelles limites tu penses voir à l'apologétique?
Moi, je pense que c'est une des choses principales que je dirais en parlant de ça, c'est que de considérer que l'apologétique, c'est pas une fin en soi, c'est pas une finalité en soi-même, mais c'est un pont vers l'Évangile. Et dans la mesure, c'est uniquement utile dans la mesure où c'est un pont vers l'Évangile. Si on l'utilise pour autre chose que ça, on est en train de se détourner de la mission de chrétien qui est uniquement de présenter le message de Christ, de présenter l'évangile. Et on en parlait tout à l'heure au repas autour d'une bonne raclette avec Vanessa, la chère épouse de Maxime, et elle parlait de la politique comme le fait de faire tomber des barrières que les gens ont, à qui on parle, un ami athée, un ami musulman, il a des barrières par rapport à la foi chrétienne, des objections, et on veut faire tomber ces barrières pour que, dans un sens, la seule barrière qui reste, c'est la croix de Christ. C'est l'évangile, c'est ça le seul scandale, et c'est un scandale qu'on ne peut pas faire disparaître. Et justement, je pense un des dangers en pensant à l'apologétique, en pensant à ces choses-là, oui, on veut, avec la Rébellion par exemple, on veut faire des vidéos Questionne ta foi, montrer que la foi chrétienne est pertinente, c'est raisonnable, mais ultimement, on veut rester conscient qu'on ne peut pas rendre la foi chrétienne sage en elle-même. Et je suis toujours frappé par ce qu'on voit dans 1 Corinthiens au chapitre 1, où Paul écrit que le message, 1 Corinthiens 1, verset 18, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Et plus loin, il dit, en effet, la folie, au verset 23, il dit, nous prêchons un Messie crucifié, scandale pour les Juifs et folie pour les non-Juifs, mais puissance de Dieu et sagesse de Dieu pour ceux qui sont appelés. Et donc, on doit rester conscient qu'au cœur de la foi chrétienne, il y a le message de l'Évangile, et au cœur de cet Évangile, il y a la croix de Jésus qui, ultimement, c'est une folie pour les non-Juifs, c'est un scandale pour les Juifs. Et on ne peut pas faire disparaître ça, parce que si on fait disparaître ça, on fait disparaître l'essence de la foi chrétienne. Et donc oui, on veut présenter les raisons de croire, on veut faire tomber les barrières, mais ultimement pour montrer davantage, pour faire briller davantage la croix de Christ, faire briller davantage la corruption de l'homme, la grandeur de la grâce de Dieu. Et donc ça, ça doit être notre but ultime en faisant de l'apologétique. Et si on s'arrête avant ça, bah dans un sens, on a failli à notre mission.
Mmh, oui, l'apologétique, c'est défendre la foi, c'est pas la trahir ou la rendre agréable pour notre auditeur.
Exactement, oui. Et donc, en considérant, par exemple, voilà, des athées comme Michel Onfray ou d'autres, tout ce qui nous entoure, oui, il y a une place pour montrer que les chrétiens ne sont pas débiles, que les chrétiens réfléchissent, que croire en l'existence de Dieu, ce n'est pas insensé. Mais ultimement, dans un sens, c'est normal qu'on soit regardé bizarrement par le monde, parce que pas par notre manière d'être ou notre manière de faire. On en parlait aussi un peu au repas par rapport aux méthodes d'évangélisation. C'est pas ça qui doit scandaliser les gens, c'est le message, le contenu qu'on proclame ultimement. Donc c'est normal qu'on soit regardé un peu bizarre ou que les gens ne nous acceptent pas comme on est, mais pas pour d'autres raisons que pour la croix de Christ, pas pour d'autres raisons que pour le contenu de l'évangile lui-même. T'as autre chose à dire par rapport à l'apologétique en général, Maxime ?
Ouais, je trouvais ça important, là, les précisions que t'as apportées, dans le sens où on pourrait se dire parfois qu'une bonne apologétique, c'est une apologétique qui va forcément convaincre ou convertir ou rendre la foi agréable à l'auditeur. Mais il ne faut pas se tromper de but. Hein. Pierre ne nous promet pas que si on a bien rendu une défense de notre foi, on ne va plus être attaqué. Oui. Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est simplement, nous, on a la conscience tranquille. Eux, ils n'ont plus d'excuses pour ne pas croire. Simplement, ça ne veut pas dire qu'ils vont croire. C'est l'œuvre de Dieu et nous, on n'a pas cette puissance de conviction pour eux. C'est l'Esprit qui fait ça en eux.
Exactement. Ouais. Et c'est intéressant d'ailleurs, tu mentionnais 1 Pierre 3,15 et surtout que souvent, c'est un peu peut-être utilisé à tort et à travers, mais de prendre le contexte de ça, de cette épître de Pierre, la première épître, où il montre qu'il encourage les chrétiens qui souffrent, justement du fait d'être chrétien, de plusieurs manières, mais entre autres avoir un bon comportement, même au milieu des non-chrétiens. Et dans un sens, ce bon comportement, c'est une manière de défendre la foi chrétienne, de montrer que par nos bonnes œuvres, voilà, ça les amène à glorifier Dieu, à ceux qui les persécutent au jour où Dieu les visitera. Et donc notre manière d'être doit toujours être empreinte de grâce, empreinte de douceur, et notre comportement joue aussi là-dedans.
Il y a un verset où il dit en quelque sorte, de toute façon, puisque vous êtes chrétien, les gens vous font souffrir, hein, il dit, mais autant souffrir parce que vous faites le bien.
Exactement.
Mieux vaut souffrir en faisant le bien, si telle est la volonté de Dieu, qu'en faisant le mal, il leur dit.
Ouais.
Parce que de toute façon, vous êtes chrétien, vous serez haï, alors donnez au moins une bonne image pour qu'ils soient même sans excuse de vous persécuter, que, en quelque sorte, leurs actes les condamnent eux-mêmes.
Ouais, excellent. Merci Maxime, c'était une bonne discussion, on a plus ou moins respecté le temps, là on est à 12-13 minutes donc c'est plutôt pas mal. On a eu une longue pause en raison du temps, on a toujours dit que les podcasts c'était quelque chose qu'on faisait un peu à côté, on voulait pas avoir ça comme un fardeau sur les épaules, où on fait ça avec grande joie, mais quand on a du temps, et donc là on arrive à retrouver un peu de temps pour se voir, et donc on va enregistrer des épisodes et essayer dans la mesure du possible de publier le 15 et le 1er de chaque mois.
Ouais.
Donc là cet épisode le 15 décembre, et puis on suivra comme ça. Donc restez connectés sur parlafoi.fr, le blog de Maxime qui grandit, qui accueille maintenant des nouveaux contributeurs, c'est excellent, et sur christetmavie.fr, mon blog, et voilà.
Très bien.
Bonne journée.